partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, nous sommes le 19 juillet 2021 et c'est un après-midi qui promet d'être assez chargé parce que nous avons un menu d'intérêt à vous présenter aujourd'hui. C'est une journée de commémoration aujourd'hui parce que du 19 au 21 juillet 1996, donc il y a 25 ans aujourd'hui et au cours des prochaines heures, eh bien c'était le déluge du Saguenay qui a fait des victimes, qui a fait des dommages incroyable pour $1 milliard. On va en parler au cours de l'émission, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence ce drame qui a été vécu dans cette région. Au même moment, presque jour pour jour, avec le drame qui se passe en Europe, évidemment, qui est d'une envergure pour ce qui est des victimes incroyablement importante, c'est 197 ou 196 morts, en tout cas autour de 200 décès dans ce déluge, ces inondations, ces pluies diluviennes qui ont touché également l'ouest de l'Allemagne et l'est de la Belgique. Alors, c'est vous dire. Mais aujourd'hui, à 13h30, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'apprête dans une conférence de presse à nous donner sa position en rapport avec l'ouverture des frontières canado-américaine. Qu'est-ce qui va se produire? Comment ça va se faire? Est-ce que ça se fera tout de suite? C'est toutes sortes de questions qui soulèvent à la fois l'espoir de voir la vie revenir un peu plus à la normale, mais du même coup, certaines inquiétudes, parce que, effectivement, il y a une resurgence des cas de COVID dans certains États américains. Nous allons en parler d'ailleurs, et nous allons parler de la situation de façon générale avec un médecin qui est neurologue au conseil de général de l'hôpital Harvard Medical School de Boston, que nous avons rejoint un peu plus tôt. Il s'agit du docteur Julien Cavanna. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Dites-moi, docteur Cavanna, quand nous regardons la situation et que notre premier ministre jongle avec la possibilité d'ouvrir ou non les frontières en collaboration avec le gouvernement américain, on se demande quelle est la situation chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, chez vous, où vous travaillez?
Vous avez raison de poser la question parce que la situation comprend beaucoup de disparités régionales. Donc la réponse varie en fonction de l'endroit des États-Unis que vous regardez. Dans le Massachusetts, par exemple, vous avez 83% de la population adulte qui est vaccinée désormais. Et donc, la campagne de vaccination a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc ça paraît logique de rouvrir la frontière lorsqu'on a des situations comme ça. Mais dans d'autres endroits des États-Unis, dans le Sud en particulier, je pense par exemple à l'Arkansas qui paye un lourd tribut au variant Delta en ce moment, la proportion de personnes vaccinées est plus proche de 40-45%. Et donc c'est des niveaux de couverture vaccinale dans certaines régions des États-Unis qui sont tout à fait inadéquates et qui franchement rendraient la rouverture des frontières et la circulation des personnes assez hasardeuse.
Donc, ce serait peu probable d'entendre les autorités nous dire « Ben voilà, les frontières sont ouvertes, allez-y, touristes, tant par voie terrestre que quelque façon que ce soit, qu'il y ait de libre circulation entre les deux pays. »
À condition d'être vacciné, sans doute. On verra ce que les autorités de santé publique canadiennes et québécoises finissent par retenir. Il me paraîtrait assez logique que la vaccination est peut-être ou le test soit requis pour circuler entre les deux pays, ça me paraîtrait tout à fait logique.
Vous avez fait, il y a quelques instants, une distinction géographique selon les États et les mentalités sur le pourcentage de vaccination. Est-ce qu'on peut découper la résistance à la vaccination par des États qui sont politiquement républicains, contrairement à démocrates? Est-ce que c'est coupé comme ça, aussi carrément que ça?
Assez carrément, oui, comme vous dites. Parce que lorsqu'on regarde la carte des niveaux de vaccination, on retrouve la carte de l'élection présidentielle de novembre 2020 avec les zones qui ont voté pour Donald Trump avec des taux de vaccination très faibles et les zones qui ont voté pour Joe Biden avec des niveaux de couverture vaccinale beaucoup plus élevés. Mais il y a une autre carte, c'est la carte des grands centres urbains qui ont payé un lourd tribut à la pandémie au début hein, dès mars, avril, et donc qui sont restés traumatisés par le nombre de morts, le nombre de malades qu'on a connus. On s'est parlé plusieurs fois à cette époque-là. Et évidemment, ces grands centres urbains vaccinent beaucoup parce qu'ils sont traumatisés par ce qu'ils ont connu. Et ça aussi, ça se superpose un peu à la carte géographique politique du vote républicain aux démocrates. Donc c'est un peu ces deux Amériques-là qui se font face, effectivement.
Alors, l'Amérique des grands centres et des métropoles et l'Amérique de la ruralité, ces deux réalités, donc, dans l'engagement d'accepter la vaccination ou non?
Oui, parce que dans les grands centres urbains, où on peut moins effectuer la distance sociale, où on s'aperçoit qu'il y avait une pandémie, où ça a été vécu vraiment au quotidien, dans les zones plus rurales, à part des points chauds, avec des foyers d'éclosion, il y a, heureusement d'ailleurs, tout un tas de régions qui n'ont vu en réalité la pandémie de Covid qu'à la télé, par ce prisme-là. Et lorsque, justement, l'information est brouillée par de fausses informations, des informations de déni, le double langage aussi du président Trump pendant toute une partie de la campagne, notamment niant la gravité de la pandémie, il ne faut pas s'étonner que cette partie de la population ne comprenne pas ou ne voit pas l'intérêt de se faire vacciner.
Docteur Julien Gavanna, merci beaucoup de votre intervention, de ces explications et de nous faire le tableau des différents États de nos voisins du Sud. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.